et avec votre esprit. Gloire à toi, Seigneur.
À ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à la suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges pour la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, je suis arrivé au Canada, j'avais l'âge de 32 ans. Et de l'âge de 7 ans, disons, jusqu'à... Je suis venu au Canada. Moi, je n'ai connu qu'un seul président dans mon ancien pays d'origine. Et puis, il s'appelait Joseph Mobutu Sese Seko. En fait, c'était un tyran, c'était un dictateur. Et tout ce qu'il faisait, lui, il ne pouvait pas tolérer l'opposition. Tout ce qui était dans l'opposition, il disparaissait. À un moment donné, il s'est imposé et s'est fait appeler le Messie du Zaïre, c'est-à-dire le Sauveur, comme s'appelait le Congo dans le temps. Je me rappelle, jeune, quand nous suivions le journal Parlé, avant le journal Parlé, on montrait la photo de Mobutu qui circulait dans le nuage. C'était le Sauveur du Congo. Voyez-vous. Quand je regarde aujourd'hui la situation du pays qui n'arrive pas à se relever, selon moi, une grosse partie est imputée à cet homme-là qui a dirigé le pays de manière désordonnée durant plus de 30 ans. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien, parce que lui, il s'est présenté comme Messie. Qu'est-ce que ça veut dire, être Messie? Est-ce que le messianisme, comme Mobutu, l'ancien président, le présentait? Pour comprendre le terme Messie, il faudrait d'abord revenir sur la Bible. Parce que c'est un terme biblique, un vocable qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Étymologiquement, le mot Messie veut dire loin, la personne qui a reçu l'onction. Alors, dans la Bible, il y a trois catégories de fonctions. Où, avant de les exercer, la personne devait recevoir l'onction. Parce que l'onction, l'envoyé en mission, déterminait et indiquait aussi le moment de commencer le travail. C'était le prophète, le roi et le prêtre. Alors, dans l'Ancien Testament, un roi, tu peux l'appeler Messie. Un prophète aussi. Et même le prêtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été loin. C'est ça la signification. C'est loin. C'est lui qui a reçu l'onction. Mais maintenant, dans l'histoire du messianisme biblique, la figure du Messie roi s'est imposée. C'est que le vrai Messie, le vrai Sauveur que Dieu va envoyer, eh bien, il sera de la lignée de David. Mais maintenant, dans le subconscient des personnes, tel qu'ils percevaient les choses, le roi Messie de la lignée de David allait être investi du pouvoir politique et militaire extraordinaire. Avec ce pouvoir-là, il va conquérir toutes les nations de la terre et vaincre les ennemis d'Israël. Mais Jésus va accomplir cette image-là. Pas selon le cœur des humains, pas selon le cœur des penchés des hommes et des femmes. Jésus sera le Messie davidique selon le cœur de Dieu. Comment cela? Contrairement à toute attente, le Messie va naître dans une étable. Il va associer à sa mission les humbles, les pauvres. Il va accueillir les exclus, les pécheurs, les faibles. Son message est un message d'amour. Il prêche le pardon des ennemis. Et ensuite, il mène son existence selon la figure du Messie qui s'appelle le serviteur souffrant. Parce que le Seigneur avertit, dit à Pierre et aux disciples aujourd'hui, qu'il va aller à Jérusalem où il va souffrir, il va être exclu de la communauté, il va subir la mort sur la croix. Mais parce qu'il va rester fidèle à son Dieu jusqu'au bout, grâce à son existence, à sa mort, à sa résurrection, le peuple, les personnes qui croient en lui, vont recevoir le pardon de péché et la vie éternelle. Voilà le Messie selon le cœur de Dieu. Pas comme le disent certaines personnes dans le monde, comme l'ancien président du Congo, je disais. Mais maintenant, Pierre, dans l'évangile d'aujourd'hui, il est habité par l'image du Messie conquérant avec le pouvoir politique, avec le pouvoir militaire. C'est ainsi que quand il entend Jésus dire qu'il va aller à Jérusalem et que là il va être tué, puis il va ressusciter, Pierre ne supporte pas. Il va le mettre à part et lui faire des reproches. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu racontes là? Ça ne va pas t'arriver. Et le Seigneur tout de suite, remarquez bien, Pierre va prendre Jésus comme un privé, mais Jésus, quand il retorque, il le fait publiquement. Il se tourne devant les disciples qui étaient là et il condamne Pierre devant tout le monde pour dire, voilà la vraie voix que je vous donne. Et il dit, non, arrière de moi, Satan. Il utilise pratiquement les mêmes paroles qu'il avait utilisé pour le diable au désert, quand il l'a chassé. Mes amis, il ne faut pas aller tout de suite condamner Pierre, parce que très souvent, nous agissons comme lui, comme Pierre. Nous voulons un Dieu puissant, un Dieu qui vient extirper de notre vie tout le mal. Un Dieu qui répond exactement à nos prières telles que nous le désirons. Nous voulons dicter à Dieu quoi faire. Nous faisons comme Pierre. Nous voulons un Dieu sans la croix, un Messie sans la croix. Et même, dans notre manière de faire, moi je me dis, nous imitons le peuple d'Israël au désert. Ce peuple-là, il a été fait sortir du pays de l'Égypte, mais quand il arrive au désert, il s'est fait un Dieu à lui, le veau d'or. Et il commence à l'adorer, c'est toi qui nous as fait sortir du pays de l'Égypte. Vous et moi, si nous ne faisons pas attention, nous fabriquons notre Dieu. Nous faisons notre veau d'or parce que nous voulons dire à Dieu quoi faire. On ne laisse pas Dieu être Dieu. On veut le contrôler parce que nous voulons nous mettre au centre. Ça, c'est un Messie sans la croix, au fait, que nous faisons. Regardez du point de vue éthique, du point de vue moral. Très souvent, vous et moi, nous disons, cette chose est bonne à faire parce que c'est bon pour moi, elle m'épanouit. Si cette même chose détruit l'autre, nous épanouit au détriment de l'autre, nous sommes toujours contents. C'est bon pour nous, en avant-marche. parce que nous nous mettons au centre. Nous sommes devenus comme les talons de mesure. Nous prenons la mesure à partir de nous-mêmes. Alors tout tourne autour de nous, autour de notre moi. C'est notre moi qui contrôle. Alors c'est nous qui dictons, nous disons au monde quoi faire, parce que nous sommes au centre de l'existence. Voilà comment nous déplaçons Dieu et nous nous mettons nous-mêmes à sa place. Alors, quand nous agissons comme ça, du point de vue éthique, alors la conséquence, c'est le marasme social. Eh bien, ce sont des rivalités, ce sont des divisions dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans nos paroisses. C'est de l'injustice, c'est l'exclusion du plus faible que nous menons, parce que nous nous mettons au centre de nous, nous mettons au centre de tout le monde. Regardez, quand le pape François a été élu le 13 mars 2013, il a fait une messe le lendemain, comme le demande la coutume, la tradition. Donc tu es élu aujourd'hui comme évêque de Rome, le lendemain tu célèbres une messe pour l'Église. Mais tu la célèbres uniquement avec les cardinaux qui t'ont accompagné, qui t'ont élu en fait. Alors c'est ce qu'il a fait, lui, le 14 mars 2013. Alors curieusement, l'évangile qui est lu à cette messe-là, c'est celle que nous venons de proclamer, c'est la page que nous venons de proclamer. Alors, il disait aux cardinaux, il dit, voyez-vous, nous tous là, nous avons tendance à mener nos affaires sans la croix. Nous voulons supprimer la croix, mettre la croix de côté. Et nous voulons mener notre existence en faisant tout pour fuir la croix. Alors, il dit, un chrétien qui abandonne la croix, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, une chrétienne qui veut suivre sa vocation, en mettant entre parenthèses la croix, eh bien, c'est un mondain, c'est une mondaine. On construit une société philanthropique, mais qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne, avec le Christ. Voyez-vous ? Alors, maintenant, tout le problème, c'est réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire mener sa vie avec la croix au centre de notre existence ? Vous savez, à Antioche, comme le dit le livre des Actes au chapitre 10, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples du Christ ont été appelés chrétiens, chrétiennes. Ce ne sont pas nous autres là. Nous sommes levés le matin, nous avons dit, nous là, nous allons nous appeler chrétiens. Du tout. Le terme chrétien était d'abord un surnom. Ce sont les païens d'Antioche, en voyant comment les disciples du Christ vivaient, qui leur ont donné le surnom de chrétien. Pourquoi ? Chrétien, en fait, ça vient du Christ. Christ, ça vient de Messie. Hein? Messie, en hébreu, traduit en grec. Christos, en français, Christ. Ça veut dire des suiveurs du Messie. Alors nous sommes des suiveurs du Messie. Alors, les gens d'Antioche, les chrétiens, ont vu que, je veux dire les païens, ont vu que les disciples du Christ, tout ce qu'ils faisaient, avait référence avec leur Messie, le Christ. Ce qu'ils disaient, la manière de vivre, la manière de s'exprimer. Alors, ils ont surnommé des Messies, des suiveurs du Messie. En grec, ben, on met le Christ, ils sont les suiveurs du Christ. En français, bien, nous sommes des chrétiens, on pourrait dire des chrétiens. Moi, ça ne se dit pas en français, on dit chrétiens. Nous sommes des suiveurs du Christ. Alors maintenant, quand on écoute le Seigneur Jésus aujourd'hui, il nous dit, si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. C'est que la condition essentielle pour être disciple du Christ, c'est être chrétien, c'est-à-dire suivre le Christ. C'est prendre sa croix et suivre le Christ, faire comme lui. Encore là, la même question revient. Qu'est-ce que cela veut dire renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre le Christ ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que tu fais de ta vie, comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, tu fais de ta vie une offrande au Seigneur. Tu fais de ta vie un sacrifice agréable au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le geste que je pose, l'attitude que j'exprime, mes paroles, mes actions, eh bien, sont des actions en vue d'aider, de supporter, de servir l'autre. Ça veut dire que quand j'accepte la croix, ça veut dire que je me décentre. Je ne suis plus au centre de moi-même, c'est plutôt l'autre, c'est Dieu qui est au centre de ma vie, ce n'est plus moi. C'est cela, porter la croix. C'est cela, suivre la croix. C'est cela, accepter le Messie avec la croix. Un Messie crucifié. Mais ce n'est pas tout. Alors, quand on fait place à la croix dans notre vie, qu'on suit notre Seigneur, à ce moment-là, on apprend à se mettre à genoux, comme a fait le Seigneur, et à laver les pieds de ses disciples, les pieds de nos amis, de ceux qui nous entourent. Cela veut dire vivre avec l'esprit de service, tout le temps. C'est cela, suivre le Christ. Intégrer le sens de service. Tout ce que nous faisons, c'est pour servir les autres. Et puis, on accepte les étrangers, on accueille les étrangers, on accueille les pauvres, les exclus que le Seigneur accueillait. On accueille les immigrants, on accueille les personnes qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, dernièrement, les quelques entrevues que j'ai suivies m'ont beaucoup édifié. Ce sont certaines personnes, il me semble que la plupart étaient de Montréal. Alors, on les interrogeait sur leur attitude, comment ils voyaient la situation des immigrants d'origine haïtienne qui sont à Cornwall, d'autres qui sont à Montréal, comment est-ce qu'ils voyaient ça, la situation? Et la majorité des personnes qui ont répondu dit, mais il faut ouvrir nos portes, ce sont des personnes comme nous, des êtres humains, qui ont des problèmes actuellement. Il faudrait faire de sorte qu'on ouvre largement nos cœurs, nos maisons, nos portes, pour les accueillir. Moi, personnellement, cela m'a édifié, me dit, voilà, c'est ça en fait, suivre le Christ avec la croix, comme lui-même le faisait, accepter les exclus, accepter les autres, en fait. Je le disais au début de la messe, ça fait quand même un temps, depuis le printemps, que nous faisons face à des inondations, un peu partout dans le monde. Mais prenons le cas du Canada. On sait qu'en Ontario, il y a eu des gens qui ont eu des dégâts dans leur chalet, certains dans leur maison, pour ne pas aller loin à Gatineau. Il y a encore aujourd'hui des problèmes qui continuent, les gens essaient de résoudre leurs problèmes. Et puis il y en a eu à Kelowna, hein, en Colombie-Britannique. Je sais qu'à Winnipeg, certaines personnes essaient de se concentrer là-bas parce qu'ils fuient aussi leur endroit où ils ont eu des dégâts et ils ont des difficultés pour caser les gens à Winnipeg. Alors tu as tous ces problèmes-là. Et puis dernièrement, on sait que c'est au Texas. On a vu des images pénibles à la télévision. Il y a eu des morts aussi au Texas, des personnes qui vivent dans des centres qu'on a réunis pour les empêcher de connaître des difficultés, des problèmes avec les inondations. Et puis, il y a eu aussi en Inde, tout dernièrement, avec ce qu'on appelle la mousson, et puis ça a amené beaucoup de dégâts. On parle là-bas de 1200 morts, et puis 18 000 écoles qui ont subi des dégâts à cause des inondations, et comment reprendre des choses difficiles. Moi, je me dis, alors, dans ces circonstances-là, qu'est-ce que ça veut dire prendre la croix, suivre le Seigneur? Moi, je me dis, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de vivre. Vivons comme nous vivons. Mangeons comme nous mangeons. Dormons comme nous dormons. Mais, ouvrons un espace de notre cœur aux personnes qui souffrent. Et on ouvre l'espace de son cœur aux personnes qui souffrent quand on pense à eux, à l'intérieur, et qu'on prie pour eux. C'est ça, suivre le Christ, prendre la croix du Christ et accueillir les personnes qui souffrent. C'est quand un moment arrive et que nous avons la possibilité de poser un geste, nous le faisons en tant que chrétiens. C'est cela, tout simplement, accepter la croix du Christ. Voyez-vous, il y a Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, celle qui s'appelait en fait Edith Stein, je vous ai déjà parlé d'elle. Elle était une juive convertie, professeure de philosophie à l'université, puis elle s'est convertie, elle est devenue chrétienne, elle est entrée dans le couvent, elle est devenue une carmélite. Alors nous sommes à la Deuxième Guerre mondiale. Comme elle était juive, à un moment donné, elle est aussi arrêtée. Elle va perdre sa vie dans le centre de concentration, camp de concentration, en Pologne, à Auschwitz. Mais elle a écrit pas mal de documents. Dans une de ses prières, elle dit à peu près ceci. Elle dit « Seigneur mon Dieu, apprends-moi à suivre ta route sans toujours tout comprendre. Aide-moi à t'accepter comme mon guide, même si la voie que tu me donnes me fait passer par la nuit. Je sais que tu es mon Père, tu es le Dieu de la sagesse. Même la voie qui me fait passer par la nuit me conduira vers toi. » Il dit, si tu veux préparer un sacrifice lentement dans ma vie, aide-moi à l'accueillir, à l'accepter. Il dit, permets que je puisse dépasser le petit moi qui est ancré en moi-même et que je meure en moi-même. Parce que quand je meurs en moi-même, alors je peux vivre entièrement pour toi. Et une belle réflexion aussi de l'ancien évêque de Rome, Benoît XV, il dit en fait, quand nous allons prendre l'Eucharistie, quand nous recevons la communion du Seigneur, nous recevons en même temps son élan d'offrande. Quand nous recevons Jésus par la parole et par l'Eucharistie, ce n'est pas un Jésus statique, c'est-à-dire qu'il reste là simplement, qui ne bouge pas, qui ne fonctionne pas. Quand nous recevons Jésus dans notre cœur, nous le recevons avec le dynamisme, avec la dynamique de son offrande, pour que à notre tour, nous apprenions à nous offrir comme lui, pour qu'à notre tour, nous apprenions à aimer comme lui et à pardonner comme lui. Amen.